Français mangent en moyenne 92 kilos de viande, 250 œufs et une centaine de produits laitiers par an. La viande occupe depuis des décennies la première place dans le budget alimentaire des familles devant les céréales et les produits laitiers. Alors pourquoi en consommons-nous autant? Comment fonctionne l'industrie qui permet l'arrivée massive de viande dans les supermarchés? Quelles conséquences cela a-t-il sur les pays du Sud? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Fabrice Nicolino. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Fabrice Nicolino, on vous connaît pour vos précédentes enquêtes sur les agrocarburants et les pesticides qui ont été de véritables pavés jetés dans la mare. Et là, vous vous attaquez à la viande avec votre dernier livre, Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Qu'est-ce qui a été le point de départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette question de la viande?
Sans aucun doute possible, c'est le sort des animaux qui m'a ému. C'est vraiment une émotion, je pense que c'est qu'on peut entendre ça. Les hommes ont perdu en fait tout sens de la compassion pour les animaux. Il me semble qu'une part notable de notre humanité recèle précisément dans le rapport que nous entretenons avec les animaux. Et c'est tragique, hein, vraiment tragique de voir ce qu'on a fait des animaux en si peu de temps, en quelques dizaines d'années. Mais moi je voudrais bien revenir en arrière pour nos auditeurs. Ça me paraît important de comprendre que en fait pendant des millénaires, grosso modo, les animaux domestiques sont apparus au moment de l'agriculture. Il y a des discussions savantes très intéressantes hein, autour de la question de savoir s'ils sont apparus avant l'agriculture, et ça changerait tout, ou après l'agriculture.
Alors c'est quand l'apparition de l'agriculture?
C'est environ, on va dire, 8-9 000 ans. Il y a environ 8 à 9 000 ans. Donc pendant des milliers d'années, on a cohabité avec les animaux domestiques, et on peut dire que les animaux domestiques ont fait partie des panthéons humains un peu partout sur Terre. Je vais citer un seul exemple, c'est le taureau Ap, que les Grecs ont appelé ensuite Apis. C'est un animal absolument prodigieux, un dieu bien entendu, et ce culte voué à Ap et Apis a duré des milliers d'années. Et dans l'Antiquité égyptienne de même, les pharaons étaient considérés comme des taureaux. Donc c'est vraiment très important de comprendre que la relation est très profonde entre les hommes et les animaux. Alors quand est-ce que ça a changé? Je ne veux absolument pas dire que dans le passé, les relations étaient paisibles et toujours heureuses. Ça, c'est évident que non. Il y a toujours eu de la cruauté, il y a toujours eu de la violence même dans les rapports.
Des sacrifices.
Des sacrifices, tout ça est évident. Mais c'était des rapports entre des êtres vivants sensibles de part et d'autre. Les animaux étaient considérés comme des êtres vivants et sensibles, et les hommes de même. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, si on s'en tient à l'exemple français, c'est de voir qu'il y avait deux voies possibles, très manifestement. Je citerai volontiers l'agronome Olivier de Serres. C'était le plus grand agronome connu au XVIIe siècle. C'était un ami proche au XVIe et au XVIIe siècle. C'est un ami très proche de Sully et même du roi de France, Henri IV. En 1600, il publie un traité extraordinaire sur l'agriculture, dans lequel il parle des animaux d'élevage avec une tendresse et une considération tout à fait stupéfiante si on se rapporte à ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis quelques dizaines d'années après, vous voyez, on est au XVIIe siècle, il y a René Descartes, que tout le monde connaît, inutile de le présenter, qui lui, dans un texte resté célèbre, parle des animaux machines. Et là, c'est vraiment une révolution conceptuelle. Les animaux ne sont plus des êtres, ils deviennent des machines. Alors, il décrit ça à la perfection, Descartes, parce que c'est un homme évidemment très, très intelligent. Il décrit à la perfection ces animaux qui sont des espèces d'automates, des machines. Et évidemment, il ouvre la voie à ce qui va suivre, à mon avis.
Et ça donne donc, à l'heure actuelle, les situations que vous dénoncez dans votre livre. Alors, pour que l'on comprenne bien la réalité de ce dont vous parlez, je vous propose d'aller visiter un élevage de cochons. Bonjour Caroline Langlois.
Bonjour.
Alors, vous êtes allée dans le centre de la France, dans l'Indre, à Fléré-la-Rivière, à la rencontre d'un éleveur, Alain Guémont.
Oui, la ferme de Monsieur Guémont, où travaillent une dizaine de personnes, a donc deux activités principales, la production céréalière et l'élevage de porcs. Un élevage, disons, de taille moyenne, en bâtiment, donc 200 truies, 3500 porcs charcutiers produits chaque année.
Ça, c'est du moyen.
Ouais, voilà, c'est une moyenne dont une petite partie est d'ailleurs transformée à la ferme et les produits vendus sur le marché, mais la plupart partent quand même à l'abattoir. Donc la visite commence dans la maternité où des petits cochons de 4 jours têtent leur mère.
Alors ici, on rentre dans le couloir des maternités. On a une soixantaine de places de maternité. Voilà, donc ici, on a les truies qui sont partiellement en train d'allaiter les porcelets.
Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce système? En fait, elles sont dans des espèces de cages.
Alors les truies, aujourd'hui, donc ça c'est vrai pour la plupart des bâtiments. Donc les bâtiments, ils ont beaucoup évolué depuis ces 30 dernières années. Donc on avait des truies avant qui étaient dans des espaces un peu plus libres, alors libres dans le sens où elles pouvaient se mouvoir un peu dans toutes les directions. Alors on avait beaucoup de problèmes d'écrasement et donc on a essayé de concevoir des cases avec un endroit où la truie est dans une cage. Alors je sais que c'est pas l'idéal parce qu'il y a une petite période de sa vie, cette truie, où elle est dans cette cage. Alors ça, on peut nous le reprocher, mais ça a été fait spécifiquement pour essayer de protéger le porcelet.
Pendant la période d'allaitement, elle reste là?
Elle reste là actuellement. Hein.
Et le sol, c'est un sol plastique?
C'est un sol qu'on appelle sol à caillebotis. Dans les types d'élevage aujourd'hui en France, en fait, il y a en gros trois modes d'élevage. Il y a l'élevage qui est en plein air. Et donc vous avez ensuite d'autres élevages qui sont en bâtiment. Et en bâtiment, il y a deux types de sols. C'est soit des sols qui sont sur caillebotis, soit des sols qui sont sur litière.
Donc et là, pourquoi ici, c'est pas la litière?
Effectivement, j'ai utilisé de la paille dans ma carrière d'éleveur, dans ma vie d'éleveur. Cette paille, il fallait l'amener, il fallait beaucoup de manœuvres pour l'enlever. Et comme nos marges étaient de plus en plus restreintes, alors malheureusement, on a été amené à avoir un système de fonctionnement qui était avec moins de main-d'œuvre. Nous, on n'a pas été jusqu'à la robotisation, ça c'est sûr, comme dans beaucoup d'usines. Hein. Mais effectivement, on a été amené à être plus efficient dans notre façon de travailler.
Les cochons sont donc séparés de leur mère à 4 semaines et poursuivent leur croissance dans des salles un peu plus vastes, dans un autre bâtiment.
Ça, c'est des porcs qui ont un peu plus de 2 mois d'âge, hein, donc ils ont 2 mois et demi, donc ils font une trentaine de kilos.
Ils sont un tiers de leur vie, là, à peu près.
Alors, 2 mois et demi, oui. Oui, parce que 6 mois. Donc, le poids vif de départ, le poids d'un animal en fin de croissance, c'est actuellement entre 110 et 120 kg de poids vif. Parce que les transformateurs, globalement, pour satisfaire les besoins des consommateurs, ont besoin de carcasses. Donc la carcasse, c'est ce qui reste de l'animal une fois qu'il est saigné et viscéré. Hein. Et donc le poids de cette carcasse d'un porc doit faire entre 85
et 95. Avant de devenir une carcasse prête à consommer, il faut bien les nourrir, ces animaux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans leurs auges?
C'est la petite particularité de cet élevage, hein, vous allez l'entendre. Les cochons se nourrissent quand même en grande majorité des céréales qui sont produites à la ferme.
C'est un mélange de blé, d'orge, des petits pois qu'on récolte, de tourteaux de colza, de tourteaux de soja. Parce que en protéines, effectivement, on n'est pas autosuffisant au niveau de l'Europe, malheureusement. Ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup.
Donc, ce qu'ils mangent ici, c'est quel pourcentage de produits que vous produisez et quel pourcentage d'importation?
Nous, actuellement, le niveau d'autonomie qu'on a atteint, aujourd'hui, on est à 90%, voire un peu plus.
Après 6 mois de ce régime, les porcs ont atteint le fameux poids commercial. Ils sont donc sortis des salles où ils ont grandi pour être emmenés dans des plus petits box où ils attendent l'arrivée des camions.
Donc ici, on a des animaux qui vont partir, qui sont arrivés à la fin de leur vie. Donc là, ils vont être emmenés par le camion qui va les emmener jusqu'au lieu d'abattage.
Alors là, qu'on comprenne, donc ils sont comme dans des box un peu.
Voilà,
et ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Il y en a 8, il doit y en avoir 7 à côté. On les arrose, on les douche. Le cochon est bien l'eau et donc c'est un facteur de repos, de calme.
Ils sont un peu serrés quand même, non?
Non, mais là, oui, effectivement, ils sont un peu serrés, mais c'est pas donc ça, c'est pas leur condition de vie normale. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent tous se reposer, dormir. Dans cette période de fin de vie, il faut que l'animal ne soit pas stressé. Donc il faut qu'ils soient ensemble, donc avec
ses... Que la viande soit tendre, hein, qu'on s'entende.
Alors c'est pas qu'une question de tendreté de viande, hein, c'est une question d'acidité, de
oui, qu'elle soit bonne,
qu'elle soit onctueuse, qu'elle soit veillée. Il y a beaucoup de critères qui font la qualité.
Donc là, à partir de ce stade-là, on commence à penser le cochon un peu comme un produit, quand même.
Non, pas encore, non. Ah non, parce que moi, mon cochon, c'est encore mon cochon, il est encore là d'ailleurs, il n'est pas parti. C'est quelque chose qui va nous donner à manger dans nos assiettes pour ceux qui veulent. Donc on doit la respecter et les conduire jusqu'à la mort le mieux possible.
En effet, Alain Guémont est un éleveur qui a conscience des abus engendrés par la société de consommation ces dernières décennies, notamment en matière de surproduction.
On a été dans les excès, dans tous les sens. Donc, à un moment donné, il va bien falloir se dire qu'est-ce qu'on veut comme agriculture demain, qu'est-ce que nous, agriculteurs, on doit produire. Mais avant, il faut que la société se mobilise, réfléchisse et qu'il y ait vraiment une projection dans l'avenir qui soit faite.
Merci Caroline Langlois. Fabrice Nicolino, on entend bien la position ambivalente de cet éleveur. Hein. À la fois, il a l'air tout en soin pour ses animaux et puis en même temps, on voit bien que derrière, il y a...
Il y a du productivisme.
Il y a beaucoup d'intérêt.
Oui, enfin, je veux dire, je veux pas dire du mal de cet homme. J'ai rencontré beaucoup d'éleveurs qui étaient des hommes malheureux, hein, mais et des gens valeureux aussi, des gens vraiment qui travaillaient beaucoup. Donc, je dirais pas du mal des éleveurs, ni de lui d'ailleurs. Simplement, il faut comprendre que les porcs, puisqu'on parle de porcs là, dans la réalité des élevages, on appelle ça par exemple du matériel. On appelle ça couramment du matériel. Les porcs qui partent, les porcs charcutiers qui partent à l'abattoir, on les appelle les gras. Quand il y a quand un animal meurt dans le cours de l'élevage, on appelle ça de la casse. Quand un animal semble trop fatigué pour continuer à produire, parce qu'il s'agit de produire, on dit que c'est un animal de réforme, ce qui veut dire qu'on va le zigouiller dans un abattoir. Donc on utilise quantité d'euphémismes parce qu'on n'ose pas affronter la réalité de l'élevage industriel.
En même temps, on entend bien hein, quand même le malaise de cet éleveur qui est en fait finalement le fruit d'un système. Alors c'est vrai que ce système, il est vraiment d'une ampleur incroyable. Dans votre livre, par exemple, vous donnez des chiffres. Par exemple, le bilan 2007 des animaux tués en France dans les abattoirs, 1 046 562 800 animaux.
Oui, je précise que ce sont des chiffres officiels, c'est-à-dire pour nourrir, pour disons satisfaire notre demande de viande en France, il faut en effet abattre chaque année plus qu'un milliard d'animaux domestiques. Évidemment, tout compris, hein, y compris les lapins, y compris les dindons, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, c'est impressionnant, plus qu'un milliard d'animaux domestiques qui sont donc sacrifiés, selon moi, c'est le mot qui convient, chaque année à notre appétit de viande.
Alors, comment on en est arrivé là? Vous étiez en train tout à l'heure de nous parler, on s'était arrêté à Descartes.
Ouais, voilà.
Mais on va peut-être repartir de la Seconde Guerre mondiale, parce que sinon, on n'aura pas le temps.
Il s'est passé quelque chose d'incroyable. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, prenons l'exemple français, hein, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a des jeunes agronomes enthousiastes, des gens sans doute très sympathiques, qui surgissent des décombres. La France a faim, il y a des tickets de rationnement, donc on cherche des solutions. Ces gens-là, qui ont entre 20 et 30 ans, partent tous, rigoureusement tous, aux États-Unis. Ils font entre 1945 et 1955, ils vont faire des voyages d'études aux États-Unis et ils reviennent totalement ébahis, époustouflés, parce que la productivité des fermes américaines est sensationnelle. Mais ça n'a aucun rapport, aucune commune mesure avec ce qui se passe en Europe. Et ils reviennent, bien sûr, donc enthousiastes, avec sous le bras un livre de génétique qui à l'époque n'a pas été traduit en français, un livre de génétique animale, parce que la génétique animale, ça n'existe pas à l'époque en France. Ils viennent et ils vont trouver l'oreille de responsables politiques de droite et de gauche. Et surtout, leur grande réussite date d'après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, parce que ça coïncide avec une époque où fleurissent ce qu'on appellera après les technocrates, les jeunes technocrates, qui rêvent d'une chose, industrialiser la France au moment où le marché commun s'ouvre, enfin. Et pour industrialiser la France, ces jeunes technocrates ont l'idée, qui paraît saugrenue mais qui l'était pas à l'époque, d'industrialiser l'agriculture et l'élevage de manière à inonder le marché européen avec des productions françaises, de gagner beaucoup d'argent avec cela, et ensuite d'utiliser cet argent pour industrialiser en profondeur la France, je parle là d'industrie lourde. Donc c'est un truc qui a été pensé de A à Z par une coalition d'agronomes et de zootechniciens, de jeunes technocrates, également de paysans, disons, on va dire modernistes, hein, parmi lesquels il faut citer Michel de Batisse, qui a longtemps été le patron du CNJA, du Centre National des Jeunes Agriculteurs. Tous ces gens-là étaient d'accord, finalement, sur une vision qui, pour eux, représentait l'avenir et le progrès.
Alors, vous le dites dans votre livre, hein, c'est les abattoirs de Chicago, par exemple, qui ont servi de modèle à l'industrialisation.
C'est dingue, pardonnez-moi.
Et ces abattoirs de Chicago ont servi de modèle au Fordisme aussi. On découvre ça dans votre livre.
Extraordinaire. En fait, vraiment, le point de départ, on peut dire, de l'industrie de masse Fordisme, tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'est en effet les abattoirs de Chicago. C'était génial. C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur de chez Ford qui s'appelle William Klein, qui, à l'extrême fin du 19e siècle, visite les abattoirs de Chicago, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qu'on appelle la disassembly line, ça veut dire une chaîne de désassemblage. Il voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les animaux arrivent entiers, et ils circulent le long d'un treuil, jusque devant des postes de travail fixes, les ouvriers désossent les animaux, et dans sa tête, il imagine brusquement un processus inverse. Il se dit, si on découpe, si on désassemble de façon industrielle les animaux, on peut probablement assembler donc dans l'autre sens, des objets industriels comme les voitures. Il va mettre quelques années à convaincre Ford, et Ford, Henry Ford, l'homme de la Ford T, eh ben, il se lance dans l'aventure, et en quelques semaines, la productivité du travail dans ces ateliers mécaniques de voitures augmente de 300%. Vous imaginez, c'est la révolution.
Sur RFI.
En compagnie aujourd'hui de Fabrice Nicolino, auteur de Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, publié chez LLL.
Alors, petit retour en arrière. Rappelez-vous, nous sommes en 1990 et le scandale de la vache folle révèle au monde entier les travers de l'élevage.
Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête. Et y a moi.
Le premier cas est apparu en 1985 en Angleterre. Quelques années après, on s'est aperçu que l'agent de cette maladie bovine pouvait être transmis à l'homme et que cette transmission pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Les agriculteurs, à chaque fois qu'on abat une de leurs vaches, ils ont des suivis psychologiques. Nous, non, on va perdre notre fils. Et c'est la vache qui compte plus qu'un enfant. Ça, c'est pas admissible.
Il semblerait que la cause, ceci a été démontré par les études épidémiologiques, soit le recyclage d'un agent infectieux de type prion dans les farines de viande et d'os qui sont utilisées comme complément protéique dans l'alimentation des bovins, surtout laitiers.
Il est très clair à la lecture des documents que le point de vue constant des gouvernements qui se sont succédés entre 88 et 96 a été de protéger les intérêts économiques de la filière bovine.
Nous devons, sans retard, interdire les farines animales et prendre le cap du dépistage systématique de la maladie.
Oui, mais Creutzfeldt-Jakob est arrivé.
Vite, vite, vache, retournons près.
Pour nos hyper supermarchés. Pas folle la vache. Pour faire pas cher, nourrir empoisonné.
Fabrice Nicolino, c'est vrai que cette affaire de la vache folle, hein, ça a été un scandale sanitaire qui a révélé au monde entier les travers justement de cet élevage industriel, notamment par le biais de l'alimentation.
Bah oui, c'est le point culminant en fait d'un système totalement fou qui a vraiment échappé au contrôle social. Bon, on le sait, on a utilisé des farines animales comme complément protéique de la ration animale, de ce qu'on appelle dans le jargon la ration animale. Donc ça coûtait moins cher de nourrir avec des farines animales des herbivores que d'utiliser d'autres sources.
Parce que l'alimentation, c'est la moitié des coûts.
Oui, c'est ça. L'alimentation, c'est absolument décisif. C'est en tout point décisif. On ne le sait pas, mais c'est décisif. Et donc, constamment, les éleveurs et surtout les organismes qui sont autour, à commencer par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, aident ou cherchent des moyens pour limiter, finalement, les dépenses dans ce domaine. Mais il y a eu la vache folle, mais rappelez-vous, il y a eu aussi la grippe aphteuse. Il y a aujourd'hui la grippe porcine qui a été opportunément rebaptisée grippe A.
H1N1.
Oui, voilà, mais c'est quand même assez.
On ne sait pas vraiment si cette grippe est d'origine liée à l'élevage.
Est-ce qu'il y a un lien?
Écoutez, moi je suis pas devin et donc ce que je peux vous dire, parce que j'ai enquêté moi-même, c'est que quand même il y a un lieu au Mexique, à La Gloria, dans l'État de Veracruz, c'est un tout petit village de 3000 habitants. Eh bien il y a des élevages, un élevage de porcs industriel qui appartient à une transnationale d'origine américaine qui s'appelle Smithfield, et le premier mort de la grippe
porcine, que moi j'appelle porcine, est de la Gloria, et les habitants se plaignaient de ces installations depuis des mois et des mois et des mois, et étaient victimes par dizaines de maladies tout à fait curieuses depuis des mois. Donc il s'est passé quelque chose là. Et ce qu'il faut comprendre, je crois que n'importe quel auditeur de RFI peut le comprendre, c'est que quand vous entassez des animaux dans des conditions pareilles vous leur injectez quantité de médicaments, des antibiotiques, des stimulateurs de l'appétit, des tranquillisants, tout ce que vous pouvez imaginer, il est clair que quand vous créez des conditions aussi abominables, il y a des phénomènes qu'on appelle recombinaison de virus, prolifération de bactéries et tout ce qui s'ensuit.
Surtout qu'à côté de cet élevage de cochons au Mexique, il y avait un élevage de volailles pas très loin qui avait le même traitement, tout ça se mélange, mute.
À ma connaissance, c'est aujourd'hui l'hypothèse qui tient vraiment la corde, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. C'est une hypothèse, mais elle est hautement vraisemblable. Et je rappelle, excusez-moi, mais Smithfield, c'est tout de même une transnationale qui possède en France des marques très connues. Je ne sais pas si je peux les citer ici.
Allez-y.
Il y a juste un Bridoux, il y a Cochonou. Et ben, ça appartient à cette transnationale qui possède aussi ses porcheries industrielles au Mexique.
Alors, on observe qu'il y a 80% des protéines destinées aux vaches, veaux, cochons élevés en France qui sont importées, et c'est essentiellement du soja qui nous vient d'Amérique latine.
Ouais, c'est peut-être c'est pas le plus fou, parce que je sais pas, je finis par perdre le sens des mots. Disons que sans soja transgénique, il n'y a plus d'élevage en France. Ça, il faut le comprendre. C'est aussi simple que ce que je vous dis. Si vous enlevez le soja transgénique qui est importé par millions de tonnes dans les ports comme Brest ou Lorient, il n'y a plus d'élevage industriel. Mais d'un seul coup, le château de cartes s'effondre.
Il n'y a pas d'éléments transgéniques dans notre alimentation.
C'est totalement faux. Le soja qui vient d'Amérique tropicale, c'est un soja transgénique. Alors, bon, moi, je me suis souvent baladé dans ces pays-là, que ce soit en Argentine, au Paraguay ou dans le sud du Brésil. Si vous voulez, c'est inimaginable. Il faut l'avoir vu une fois dans sa vie pour comprendre ce que ça veut dire. Comprendre ce que c'est qu'une machine industrielle à l'action. Vous pouvez rouler sur des dizaines de kilomètres, et des deux côtés de la route, il n'y a que du soja transgénique. Et ça veut dire que la structure physique de ces pays a été changée en l'espace de 40 ans. Le soja transgénique, ça rapporte des montagnes d'argent aux exportateurs. Ces exportateurs, c'est soit des sociétés qui sont en relation très étroite avec les gouvernements en place, que ce soit au Brésil ou en Argentine, au Paraguay de même, enfin Paraguay c'est différent avec le nouveau président, mais c'était vrai avant, soit des transnationales comme Cargill, comme Monsanto, etc.
Donc, ça a des conséquences catastrophiques, déforestation...
Ce qu'on appelle le front agricole évidemment évolue très rapidement. C'est-à-dire que le soja prend la place souvent de terres qui étaient dévolues à l'élevage. Évidemment, les éleveurs s'en plaignent et cherchent de nouvelles terres pour leurs troupeaux, ce qui est évident. Et pour trouver ces nouvelles terres, il n'y a guère qu'une solution dans ces pays-là, c'est soit défricher la forêt tropicale, soit défricher des zones comme le Cerrado au Brésil, c'est-à-dire une zone de savane, une zone intermédiaire. C'est fatal. C'est-à-dire que cette situation a des enchaînements qui sont inévitables.
Tout ça pour nourrir les animaux du Nord.
Absolument. Sachez une chose, c'est un chiffre qui est effarant, mais qui est absolument prouvé. Pour satisfaire la demande de viande en France, il faut que chacun d'entre nous, on est quatre dans ce studio de RFI, et ben quatre, et puis tous les gens autour et tous les gens en France doivent disposer virtuellement de 659 mètres carrés plantés en soja quelque part dans le monde. Pour satisfaire notre demande de viande, il faut que chaque Français dispose de cette surface virtuelle. 659 mètres carrés, ça commence à être un beau jardin. Et ben chaque Français dispose de ce jardin, sauf que c'est un jardin à mon sens diabolique, qui est semé en soja transgénique ailleurs qu'en France.
Alors maintenant, la question, évidemment, c'est face à ce constat catastrophique quand même que révèle votre livre.
Oui, c'est catastrophique.
Qu'est-ce qu'on fait?
On réduit sa consommation de viande, ça me paraît... C'est une mesure de bon sens aussi pour la raison...
Enfin, il y a toute une filière en jeu quand même.
Il faut absolument...
Il faut diviser par quatre la consommation.
Oui, au moins. J'ose le dire. Mais si vous voulez, quand on s'est trompé, il faut le reconnaître. Simplement, personne n'ose dire la vérité aux Français et aux éleveurs. Ce système est à bout de course. Ce système est dans une impasse historique et planétaire. Donc l'évidence, c'est qu'il faut en changer. Il faut sans doute un plan de transition.
Et de toute façon, on ne pourra pas répondre à la demande des pays émergents sur ce même modèle.
Jamais. Je dis bien jamais. En ce moment, la demande de viande explose dans le monde à cause de ce qui se passe dans les pays dits émergents, l'Inde, et surtout la Chine, où il y a 2 à 300 millions d'habitants qui commencent à vouloir consommer de la viande comme nous, parce qu'ils en ont les moyens matériels. Eh bien, c'est sûr que les surfaces de céréales qui permettraient de nourrir ces animaux n'existent pas. Et il faut que les auditeurs comprennent que les surfaces agricoles ne sont pas extensibles à l'infini sur Terre. On est en train de buter contre un mur physique qui ne sera jamais franchi. Quoi que disent les propagandistes de la viande, ce mur ne sera jamais franchi. Donc c'est quand même un sacré problème.
Et il y a aussi un lien avec le réchauffement climatique.
J'allais le dire. Écoutez, il y a un rapport sensationnel et qui n'a malheureusement, à ma connaissance, pas été traduit en français, de la FAO, qui date de 2006.
C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation.
C'est la grande agence onusienne de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, basée à Rome. Donc, un rapport de 300 pages en anglais, qui dit quoi? Que l'élevage dans le monde produit 18% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, 18% des gaz à effet de serre d'origine humaine, et c'est davantage que la totalité des transports. Alors, voitures, bateaux, avions.
Alors,
c'est
rapidement,
incroyable.
Pour que les auditeurs comprennent, ouais. Comment on explique cette émission de CO2? On parle des pets de vache régulièrement.
Bon, il y a le méthane, ça c'est un des gaz à effet de serre, mais en vérité, il y a énormément de combustibles fossiles qui contiennent d'autres gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique, qui sont utilisés dans le processus de fabrication. Il faut concevoir ça comme un processus de fabrication, et pas seulement comme la vie des animaux dans les élevages.
Bon, ben on va voir si ce livre sera à nouveau un pavé jeté dans la mare. Il sort aujourd'hui dans vos librairies. Merci.
Merci
enfin, en
beaucoup.
France en tout cas, et dans d'autres pays, j'espère qu'il sera traduit. Merci Fabrice Nicolino d'être passé dans notre émission. Ça s'appelle donc Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent.
Demain, C'est pas du vent se penchera sur la question des déchets nucléaires.
Ouais, un dossier polémique. À demain donc, même planète.
Même heure.